D'accord. Yann Arthus Bertrand, bonjour, bonjour.
Bonjour, bonjour. Moi, je dis toujours bonjour, bonjour quand j'arrive. On se moque de moi parce que je dis deux fois bonjour.
Eh bien, on a ce point commun. Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour Agir et merci de me recevoir chez vous dans vos locaux à Boulogne.
D'accord.
Je voudrais commencer par une citation du grand photographe Elliot Erwitt. Et voilà ce que notre ami souligne. Je suis un photographe professionnel par besoin et un photographe amateur par vocation. Et vous, Yann Arthus Bertrand, qui êtes-vous?
Moi, je suis photographe un peu par accident, puisque je voulais faire une étude sur les lions au Kenya, et je me suis aperçu que la photo donnait une information très importante par le différent de l'écriture, et donc j'ai essayé de faire la thèse qu'on préparait ma femme et moi sur le comportement des lions au Kenya, dans le Masai Mara, qui était une thèse qui était là. Une comparaison entre les lions du Serengeti et les lions du Masai Mara, et je voulais le faire en photo. Donc je crois que c'est la première fois qu'une thèse était acceptée en photo. C'était, on parle des années 70, hein, c'est pas, de, pas 75. Et donc c'est les lions qui m'ont appris la photographie. J'ai appris la photo tout seul avec les lions, en sachant que je regardais mes films quand je rentrais en France, c'est-à-dire 8 mois après. Donc j'ai beaucoup de déchets, puisque c'est pas comme aujourd'hui où on fait une photo, on a sur le dos de ton appareil, tu vois ce que c'est. Et j'ai toujours aimé la photo. J'ai toujours été mon père faisait de la photo, et même encore aujourd'hui, je fais toujours de la photo, plus avec mon iPhone qu'avec un appareil photo, parce que je suis plus réalisateur, mais je suis tellement obsédé par la photo que je dis souvent, je préfère ne pas voir quelque chose de formidable que de le voir sans appareil.
C'est intéressant.
Si je peux pas, moi, le... D'ailleurs, je vais copier mon téléphone. Et l'iPhone est un truc incroyable pour travailler. Alors, tous les iPhones, pas seulement l'iPhone Apple, mais tous. Ouais. Et d'ailleurs, on commence un film là sur la France où on travaille avec des iPhones. Donc, ce qui montre bien que là, je pose mon iPhone près du tien. Aujourd'hui, la qualité, le 4K, quoi, la qualité de ces appareils, c'est absolument inouï.
C'est ça. Alors, on va reparler de la photo, mais très rapidement, pouvez-vous donner les grandes lignes de votre carrière professionnelle? Très rapidement.
Et tu regardes Wikipédia, Yann Arthus Bertrand.
Non, mais c'est parfait. Non, mais c'est bien, au moins, c'est l'esprit de synthèse. Non, mais c'est super. Non. Alors, quelle définition donnez-vous? Est-ce que déjà vous savez ce que veut dire la photographie en grec?
La lumière, non?
Oui, c'est ça. Exactement, c'est écrire avec la lumière.
Le photon, oui.
Et alors, qu'est-ce qu'être photographe pour vous? La définition du photographe?
C'est saisir à travers un instrument chimique, un instrument numérique, ce que tu vois. C'est drôle, j'avais la discussion hier à ma fondation. On n'est pas artiste tous les jours, rarement. On est d'abord des artisans et on travaille avec un appareil. On n'est pas artiste dès qu'on appuie sur le bouton, loin de là. Et moi, je me prends beaucoup plus comme un journaliste, comme un photographe. Comme un artiste, en tout cas, je suis quelqu'un qui témoigne de mon époque, qui témoigne de ce que je vois, et en essayant toujours de chercher quel sens je veux donner à ce travail, qu'est-ce qu'il y a derrière.
Donc vous définissez comme un artiste?
Non, pas du tout, je me considère comme un journaliste.
Un journaliste.
Un journaliste qui a une certainement un sens artistique, mais voilà, moi je suis à l'Académie des Beaux-Arts, donc toi je suis académicien, oui. Comme artiste. Mais j'ai toujours dit que je ne me sentais pas vraiment artiste. Quand quelqu'un qui dessine, quelqu'un qui compose, moi je me promène dans un musée et je photographie des tableaux.
Oui, c'est ça. Alors vous passez votre vie à photographier la terre, le ciel vu, la terre vue du ciel. Quelle définition donnez-vous de la terre avec votre regard que vous avez?
La terre, c'est ma maison, tout simplement. C'est ce que je photographie chez moi. Parce que aujourd'hui, avec les chiffres très angoissants donnés par le GIEC, donnés par tous les scientifiques du monde entier, les cris d'alarme, voilà, j'estime que là, on a l'écologie, d'ailleurs, c'est la science de la maison. Voilà, et donc on est dans un monde aujourd'hui un peu compliqué. Voilà, donc il faut essayer de réfléchir comment transformer tout ça.
Et la nature? Vous êtes un amoureux de la nature?
Je suis un amoureux de la vie. Et il n'y a pas d'un côté, toi tu es nature, je suis nature, nous sommes ici dans la nature, tout ce qui est là autour de nous provient de la nature. Et il n'y a pas d'un côté l'homme, d'un côté la nature, je suis nature, voilà. Donc, il ne faut pas l'oublier.
faut pas l'oublier. En regardant tout ce que vous avez fait, Yann Arthus Bertrand, je me suis dit, vous êtes un amoureux de la beauté et vous nous transmettez la beauté de la nature. La beauté, elle est subjective ou objective pour vous?
Alors, bien sûr qu'elle est subjective, mais le sens de la beauté, c'est vraiment, quand Dostoïevski avait dit « Seule la beauté sauvera le monde », et il n'y a pas très longtemps, je vérifiais cette phrase, en fin de compte, il parle de la beauté et du bon, c'est-à-dire que ce que j'aime dans la beauté, c'est la beauté des gens, qui, c'est, en fin de compte, la beauté, la grande beauté des glaciers, des montagnes, des arbres, des grands paysages. C'est pas une beauté qui m'intéresse beaucoup. Par contre, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est la beauté des actes, les gens qui font, les gens qui partagent, les gens qui donnent du sens à leur vie. Et cette beauté, elle s'appelle l'amour, tout simplement. Et cette beauté-là m'intéresse beaucoup plus.
D'accord. Et quel lien faites-vous entre la beauté et la sensibilité? Parce qu'est-ce que quand on est sensible, on est beaucoup plus ouvert à la beauté ou pas?
Quand on est sensible, oui, je pense, oui. Mais toutes ces formes de beauté dont on parlait, moi je suis très attiré parce que j'ai beaucoup photographié la beauté, j'ai passé des années à aller photographier les plus beaux endroits du monde. Voilà, et à quoi ça sert? Peut-être pas grand-chose. Parce que les gens qui agissent ont peut-être mieux compris que moi ce que ça voulait dire la beauté. Voilà.
C'est assez subtil comme réponse. Vous venez de dire, vous avez, oui, en effet, photographié, vous êtes allé dans tous les coins de la Terre. Quel regard avez-vous sur la France?
Un regard très amoureux sur ce pays que j'aime bien. Moi, je suis dans quelqu'un qui, aujourd'hui, essaye d'aimer encore plus, peut-être. Je pense que la vraie solution à tous nos problèmes, c'est certainement l'amour. Est-ce qu'on aime assez nos enfants, la vie autour de soi, pour détruire ce qu'on aime, sur lequel, quand même pas oublier qu'on dépend tous de la nature. Hein. On est nourri par la nature, on respire la nature, on se baigne dans la nature, et notre façon de vivre est en train de détruire ce monde absolument idéal, ce paradis sur lequel on vit. C'est pas tous les jours un paradis, mais en gros, on est en train de détruire sur ce dont on dépend, quoi, quelque part. Et on le sait tous, et on continue comme si on n'avait pas d'autre moyen. On est dans un espèce de déni collectif. Et mon combat, moi, c'est d'essayer d'amener péniblement, parce qu'on n'y arrive pas facilement, une espèce de prise de conscience pour te dire, agir rend heureux, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer notre façon de vivre. C'est complexe, on n'a pas la solution. mais en même temps, les Africains, ils ont un mot que j'aime beaucoup, ils disent, il faut arrêter de pleurer tout seul dans le noir. Il faut allumer une lumière. Moi, j'essaie d'allumer une lumière. Je pense qu'on a tous le devoir et la mission d'allumer une lumière. Et ce qui est étonnant, c'est que ma génération, elle est ancienne, ou ta génération, ils sont pas très intéressés par ça, en fin de compte. Ça ne les intéresse pas beaucoup. On continue dans le monde d'avant, alors que les jeunes de 20 ans aujourd'hui sont tous angoissés par ce qui se passe. Angoissés, c'est pas tous dans l'angoisse, mais ils savent ce qui se passe. Et donc, tout leur métier, ce qu'ils veulent faire dans la vie, il y a cette échéance devant nous. Moi, quand j'avais 20 ans, j'ai pas peur de l'avenir. Aujourd'hui, tous les enfants qui ont 20 ans ont peur. Ils ont compris ce qui allait se passer.
Et comment expliquez-vous cela, cette appréhension?
J'explique que quand on leur dit qu'on va vers une sixième extinction, la sixième extinction, c'est quand même la mort des gens qu'on aime. Quand on dit qu'en 2070, c'est pas loin, 2070, moi, un mec qui a 76 ans, c'est pas grand-chose, c'est dans, voilà, 50 ans, eh bien, 3 milliards de gens pourront plus vivre où ils vivent, ça veut dire quelque chose. Et ça ne va pas se passer d'un coup, ça va aller progressivement. On va vers un monde extrêmement compliqué, je trouve.
Oui, mais il faut agir, comme vous dites. Le cercle de pensée s'appelle devenir pour agir, donc vous voyez, on est vraiment dans cette action.
Je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen que d'agir. Et le fait d'agir te permet d'accepter tout ça. Le fait de faire partie de ces gens qui bougent, qui avancent, te permet d'accepter. C'est en train d'arriver.
Oui, mais faut-il encore savoir pourquoi et surtout où on avance? Parce que c'est bien beau d'agir, mais si on n'a pas cette finalité ou ce but ou ce...
Je pense que chacun peut... Tu sais, aujourd'hui, depuis le temps qu'on en parle, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Hein. On dit consommer moins d'énergie fossile, moins de pétrole, ça veut dire moins prendre l'avion, ça veut dire moins manger de viande, ça veut dire... Voilà, réfléchir dans la façon de nous déplacer, ça veut dire vivre un peu mieux avec moins. Est-ce qu'on est capable de le faire? Je ne sais pas, mais en tout cas, on sait tout ce qu'on doit faire. Moi, je ne donne pas de conseils parce qu'il y a longtemps qu'on l'a. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué qu'éteindre le robinet quand on se lave les dents,
Oui.
voilà, ou prendre des douches ou du bain. C'est un peu plus compliqué que ça aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on dépend tous de la croissance. Et cette croissance qui est en train de nous tuer, hein, c'est très clair, puisqu'il n'y a pas de croissance sans énergie fossile, ça n'existe pas. La croissance, c'est ce qui paye les fonctionnaires, les routes, les hôpitaux, les écoles, voilà, le pouvoir d'achat, les emplois, quoi. Donc, toucher à la croissance, c'est toucher à tout ça, et ça terrorise tout le monde, donc on ne sait pas très bien quoi faire. Il y a des gens qui travaillent dessus, qui réfléchissent, mais aujourd'hui, l'égoïsme des nations faisant que chaque nation est indépendante et qu'on peut, en fin de compte, on nous oblige à rien, chaque pays fait ce qu'il veut, nous empêche d'avoir un mode de vie vertueux, c'est évident. Alors, je n'ai pas la solution, mais je pense que, toi, quand tu as la marche pour le climat, comme il y a eu là samedi dernier, où tu as 30 000 personnes ou 60 000 personnes en France qui marchent pour le climat, on marche pas pour le climat, on marche pour la vie, c'est plus compliqué que ça. Et ça, c'est une façon d'agir, justement, de marcher, de faire partie de ces gens qui manifestent. Et par contre, quand tu as 60 000 personnes pour le climat et quand tu as la marche pour la passe sanitaire, contre la passe sanitaire, il y a 200 000 personnes. Et quand il y a la marche pour l'arrivée de la Coupe du Monde, il y a 2 millions de personnes dans les rues. 2
Très
millions.
étonnant,
Quand
quoi.
tu auras 2 millions de personnes qui marcheront pour la vie, peut-être que ça changera un petit peu.
Et quelle définition donnez-vous de vous définissez peut-être comme un écologiste? Quelle définition? Parce que je travaille beaucoup avec des étudiants qui se disent écologistes, mais je n'arrive pas à leur donner de véritable définition.
Alors, un écologiste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui met en priorité, numéro un, l'avenir de la vie sur Terre, pour le faire bref.
Oui.
Et c'est aussi quelqu'un qui aime les gens, c'est
Oui.
important. D'aimer, quoi. L'écologie politique, l'écologie en combat, ça fonctionne plus. On sait bien qu'il faut une écologie bienveillante, qui essaie de comprendre pourquoi on n'est pas tous, on n'est pas tous concernés par ça. Mais moi, je suis toujours étonné du peu de retours qu'on a sur nos conférences. Tout ce qu'on a. On a l'impression que les gens savent tout, mais que rien ne bouge, quoi.
Oui, le pape François parle de l'écologie intégrale. Je vois que vous aviez le pape Jean-Paul II là
Et parce que
en photo.
j'ai pour financer un orphelinat à Brazzaville, j'ai fait un livre, j'ai illustré le Laudato Si, qui était un encyclique qu'a fait le pape.
Oui, c'est ça.
Et voilà, et donc on en a vendu pas mal, et j'ai été reçu par lui. J'ai fait une vidéo avec lui sur les océans. Et c'est drôle parce qu'il y a des gens comme ça que tu revois. Il y a deux personnes qui m'ont vraiment marqué dans ma vie, peut-être trois. Le pape, on a passé 1 heure avec lui parce qu'il se trouvait qu'on a discuté pendant 1 heure avec lui d'une façon incroyable.
Donc Jean-Paul II.
Avec Jean-Paul II,
D'accord, oui.
le Dalai Lama, qui est vraiment quelqu'un qui est aussi des grandes âmes, quoi. Et aussi Pepe Mujica, qui est un président de la République du Uruguay, qui est sur YouTube et qui est un gauchiste, mais qui est président de la République et qui le matin qui va vendre ses fleurs sur le marché, qui est une vieille Volkswagen pourrie et qui va au palais présidentiel, qui a un vrai intelligence de vie. Et je pense que il a compris, quand tu es président de la République, tout ce que tu fais est important, quoi. T'es vraiment organisé. Donc ta façon, si tu vis d'une façon frugale, tu vois, voilà, ça marque les gens. Il avait bien compris ça. Et dans le film Human, qui est pour moi un des meilleurs films, ce qu'il dit est formidable sur la croissance. Je vous conseille de regarder. Human, c'est gratuit sur YouTube. Voilà.
Il y a un artiste Bertrand, il y a Aristote avait écrit un livre, Les parties des animaux. Et il soulignait déjà, vous voyez, à
Tu es
son
prof de quoi, toi?
de philo,
Ah, d'accord. Je comprends rien à la philo.
d'éthique et de philosophie.
L'éthique, oui, je compte. L'éthique et la morale, c'est des mots qui me parlent.
Voilà. Et en fait, Aristote a écrit un livre, Les parties des animaux, où il fait la distinction entre l'animal et l'homme. Et il souligne que l'homme est un animal politique. Or, actuellement, pouvons-nous dire que, avec le constat que vous pouvez faire, que l'homme ne respecte pas toujours la nature, pouvons-nous dire simplement que l'homme est resté au stade animal?
Il y a une. Heureusement. Non, mais ce que je veux dire d'abord, c'est qu'il y a toute la philosophie ancienne s'est basée sur la différence entre la nature et les animaux. L'homme, il est la nature d'un côté, les animaux et l'homme de côté. Aujourd'hui, il n'y a pas de différence. Je pense que les animaux ont autant une âme que les hommes. Je pense que les animaux sont aussi intelligents que nous sommes. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que même les arbres se parlent entre eux, qu'on est en train de découvrir des choses incroyables qu'on croyait qu'ils n'existaient pas. Donc, il faut pas. L'homme n'est pas au-dessus des animaux. Malheureusement, il se sert et il consomme la planète. Mais malheureusement, On nous dépendons tellement de la nature et des animaux. On est en train de gérer la nature comme si c'était un bien commercial qu'on doit gérer, sans laisser la liberté au monde sauvage de s'épanouir. Et voilà. Le problème, c'est que quand je suis né, on était 2 milliards, aujourd'hui on est près de 8 milliards. C'est absolument dingue. Et on est en train de consommer la planète. Et la chose la plus, je le répète, je vais le dire, il faut que je le dise à toutes mes interviews, la chose la plus facile à faire pour essayer de sauver la vie sur Terre, c'est pas, ça veut rien dire sauver la planète, c'est la planète, elle va continuer à tourner, c'est garder la vie sur Terre telle qu'elle est aujourd'hui. C'est ce qui m'intéresse, que c'est là où je vis. Faut arrêter de consommer la viande industrielle, n'est pas bon pour la planète. Donc il faut arrêter. Et comme toute la viande est industrielle, pratiquement toute, faut pas avoir de l'histoire, il faut devenir végétarien, c'est important. Et même, moi, je viens même t'arrêter le lait, toi. Parce que c'est une question philosophique, tout ça, toi.
Oui, c'est
Quel est le
intéressant,
sens de la
oui.
vie? Est-ce que moi, j'ai le droit, pour me nourrir, de faire souffrir les animaux? Est-ce que je consomme, c'est de la souffrance? Est-ce que j'ai le droit de le faire? On connaît toutes les vidéos d'L214, les
Oui.
abattoirs. Et puis maintenant, quand tu commences à réfléchir un petit peu, quand tu prends du fromage ou du lait, eh bien, une vache, pour faire du lait, elle doit avoir un veau. Et donc, on l'insémine. Et quand le veau naît, on l'enlève immédiatement. Un jour, on l'enlève à la vache,
Qui est terrifiant,
où
quoi.
il va être tué, où il va partir engraisser. J'ai appris l'autre jour que dans les ferries qui vont tous les jours en Irlande, il y a 1 600 veaux qui partent. Il faut savoir que 80% de la viande de bœuf qu'on consomme, c'est des vaches laitières réformées. Le prix est tellement bas du lait, les gens gagnent tellement peu d'argent, que dès que la vache, elle produit moins, au bout de 3 ou 4 ans, elle part à l'abattoir. Tout ça, c'est une réflexion qu'on se peut avoir quand tu prends du lait ou du fromage. On peut le décider de s'en foutre complètement, et moi j'ai décidé d'aujourd'hui. Et ça n'a pas été. Et c'est un long chemin, parce que moi je le sais depuis longtemps ça. Mais en même temps, le jour où tu décides, bah, j'arrête le lait complètement, c'est beaucoup plus compliqué. Et même chose pour un fromage de chèvre ou un fromage de mouton, c'est pareil. Hein. Les brebis, les agneaux sont retirés quelques jours. Voilà, donc c'est une réflexion qu'on peut se dire. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que cette banalité du mal, ça c'est un mot que j'aime beaucoup, la banalité du mal, hein, c'est Hannah Arendt qui a parlé de ça. Est-ce que je veux rester dans cette banalité du
C'est
mal ou
ça.
j'essaye de me transcender? C'est pas le mot, hein, mais d'aller. Hein. Et je pense, de toute façon, pour parler philosophie, qu'on a besoin d'une vraie révolution. Et cette révolution, elle ne sera pas politique, parce qu'on a les politiques qu'on mérite. Le politique est dirigé par ses électeurs, donc par nous. Et ça ne sera pas scientifique, parce que. On va jamais couvrir le monde de. Voilà, on va pas fabriquer de la viande, tu vois, avec des algues. Ça existe, on fait de la fausse viande, mais on pourra jamais nourrir la planète avec ça. Elle ne sera pas non plus économique, parce que l'économie n'a qu'une envie, c'est de produire, de produire, de produire. Elle sera spirituelle. Et je pense que cette spiritualité-là, moi je travaille beaucoup dessus. Je commence la méditation en ce moment. Et c'est drôle parce qu'hier, j'ai fait une conférence à ma fondation. Je vous conseille de venir tous à ma fondation Good Planet, hein, qui est gratuite, ouverte à tous, qui est en bois de Boulogne. Et on parlait justement de l'art et la protection de l'environnement. Et à un moment, il y a une jeune danseuse qui est. Je disais que je faisais de la méditation, que ça m'élevait un petit peu, je comprenais des choses sur moi que je n'avais pas bien compris. Et elle s'est mise à demander à tout le monde de faire la méditation, tout en était comme 200 personnes. Et d'un seul coup, il y avait un silence, mais incroyable. 200 personnes fermant les yeux, les écoutant. Et tu aurais fait ça il y a quelques années, les gens auraient rigolé. Aujourd'hui, tout le monde est rentré dedans. Et je pense que cet exercice de sentir le moment présent, de réfléchir à ce qu'on est, c'est très philosophique tout ça, mais ça marche, tu vois, avec cette prise de conscience qui n'est pas suffisante sur l'état du monde. Et tout ça revient quelque part à l'amour. Est-ce qu'on aime assez nos enfants? Est-ce qu'on aime assez la vie? Et en parlant d'amour, là, à côté, on est en train de monter un film sur les migrants. Et pendant 8 jours, on a envoyé des gens se faire interroger des migrants ukrainiens qui arrivaient en Pologne. Et les Polonais expliquaient qu'ils partaient en catastrophe, qu'ils emmenaient leur cochon d'Inde en catastrophe, qu'ils laissaient le frigidaire plein, que le mari partait à la guerre, ne savait pas s'il allait pouvoir survivre. Qui partaient sur la route, voilà, c'est 4 millions de personnes quand même, c'est gigantesque, c'est fou quoi. Un exode, ce truc-là, c'est déjà un truc qu'on n'a pas vu ça depuis des années. Et en fin de compte, ce qui m'est resté dans ces roches, c'est pas tellement le chose horrible de ça, c'est l'accueil qu'ils ont été reçus par les Polonais. Et comme tous les gens, en pleurant, remercient les Polonais de les accueillir. Jamais on n'aurait pensé être accueilli par ça. Donc, là, tu viens voir un truc épouvantable sur la guerre. Et qu'est-ce qui m'est resté? Ben, c'est l'empathie, c'est l'amour qu'on a les uns pour les autres. Et c'est évident que c'est ce qui me parle le plus, quoi, tu vois. En tout cas, moi,
Oui.
ce qui me parle le plus.
C'est passionnant ce que vous dites. J'ai deux questions en
Vas-y.
vous écoutant. La première, vous parliez des droits tout à l'heure, des droits de l'homme. Je dirais que c'est plus un devoir maintenant de respecter la nature. S'il a peut-être toujours été
Mais tu
finalement.
sais, on n'est même pas capable de se respecter, on n'est même pas de respecter l'homme. Est-ce que tu admets, par exemple, est-ce que tu peux cautionner que la France soit le troisième vendeur d'armes au monde? La
C'est
France, mon
terrible ça.
pays.
Ah oui.
Et quels sont les premiers clients de la France? L'Égypte et l'Arabie Saoudite, qui ne sont pas des pays exemplaires dans le droit des femmes, voilà,
C'est sûr,
et dans, sur la
ouais.
démocratie. Donc voilà, pour faire tourner le business, pour pouvoir importer du pétrole, on est prêt à faire n'importe quoi. Et aujourd'hui, pendant que je te parle, il y a la guerre en Arabie
Ouais.
Saoudite, le Yémen, et le Yémen est bombardé avec des bombes ou des missiles. Voilà, c'est un raccourci, peut-être un raccourci un peu vite fait, mais j'ai du mal à accepter que mon pays soit le troisième vendeur d'armes au monde, même si aujourd'hui on a besoin d'armes pour l'Ukraine. Mais il y a toute une espèce de politique, quoi, de fabriquer des armes, et quand on fabrique des armes, on s'en sert, hein. Pas des armes pour
C'est
les mettre dans des
sûr, oui.
placards.
Mais donc c'est un devoir finalement de respecter la nature, ce n'est pas un droit, on a ce
Mais
devoir.
c'est pas,
C'est une
tu sais, ça
c'est
devient.
alarmant quand même
Non,
de.
d'abord, moi j'arrête de dire respecter la nature. La nature, c'est toi. C'est respecter la vie sur Terre. En fin de compte, respecter la nature, c'est un peu un mot qu'on entend dans les écoles aujourd'hui, tu vois. Mais je crois qu'il faut comprendre que c'est respecter la vie telle qu'elle est, quoi. Qu'est-ce que c'est que la vie, quoi? C'est aussi important de respecter un animal qui doit être tué correctement puisqu'on va le consommer, que d'accueillir un réfugié, quoi. C'est la même chose. C'est partie de cette espèce d'empathie qu'on a tous en nous, hein. D'ailleurs, il faut savoir que l'homme, Mathieu Ricard l'explique très bien, ça. On est tous avec de l'empathie, on est complètement d'admiration devant nos parents, on est là, on les aime, ils nous protègent. Et bien après, avec la vie, ben voilà, les déceptions, tout ce qui t'arrive, voilà, tu perds cette empathie, hein, qu'on a tous entre nous, on a tous en nous. Et c'est assez passionnant de voir comment est-ce qu'on perd ce côté, voilà, instinctif d'aimer les uns les autres.
Mais alors, quelle définition donnez-vous du vivant? Parce que finalement, on est respecter la vie, c'est.
Mais le vivant, je sais pas, le vivant, ça suffit. Le vivant, c'est facile à comprendre, il n'y a pas de définition à donner, c'est ce qui vit, quoi. Mais moi, en ce moment, je suis en train de faire un livre, un film sur la biodiversité pour France 2. En fin de compte, quand j'étais pendant le confinement, je me suis beaucoup promené dans ma forêt autour de chez moi. Et je me suis aperçu que la beauté tu vois, évidente, la beauté évidente, c'est la beauté qui est là, qu'on ne regarde plus. On la regarde de près, on dit oui, c'est pas mal, quoi. Et était autour de moi, j'ai été dans le monde entier, en fin de compte, cette beauté, elle était autour de chez moi, quoi. Et en réfléchissant, on se dit toujours qu'est-ce qu'on va faire. On a fait un film qui s'appelle Legacy, qui a très bien marché. Et je me suis dit, peut-être réfléchir à ce qu'on peut faire comme autre film. J'ai voulu faire un film sur la biodiversité, donc sur tout ce qui vit en France, quoi. Ces millions d'animaux qui vivent en France et qu'on ne regarde plus. Alors, c'est aussi bien sûr, les gros animaux, les renards, les blaireaux, les cerfs, les biches, mais aussi tous les animaux microscopiques, les insectes, les oiseaux, qu'on ne voit plus. Et c'est assez inquiétant de voir qu'on a perdu 80% des insectes volants, on a perdu 30% des oiseaux, quoi, tout ça parce qu'on consomme des
C'est
tout
ça,
ça parce
oui.
qu'on consomme des pesticides, et voilà, qu'on est en train de tuer la vie sur Terre. Et donc on fait ce film, et ça me passionne. Est-ce que vous savez, par exemple, alors d'abord on a demandé à tous les gens qui filment en France de nous envoyer des images. On n'a pas
D'accord.
tourné nous-mêmes, on a tourné un petit peu, mais surtout les gens, ce qui fait qu'on a reçu, tu vois, 700 heures de rush formidable. Et le film est présenté à la Fondation. Là, c'est un teaser parce que le film est en train d'être monté. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir. Je vais dans un monde complètement inconnu, quoi. Je ne savais pas que le martinet, qui est un oiseau qui ressemble à une grosse hirondelle, part dans le ciel. Et quand il sort de son nid, il va rester 10 mois dans le ciel sans se poser. Il va dormir dans le ciel, il va se nourrir dans le ciel, faire l'amour dans le ciel, il va se nettoyer dans le ciel. C'est extraordinaire. Quand ils vont revenir pour nicher, les parents, ils vont attraper 15 000 insectes par jour pour nourrir leurs petits.
C'est
15 000
énorme.
insectes. Alors t'imagines quand t'as des pesticides et qu'il y a moins d'insectes, le bordel que ça fout
Ah oui,
dans la chaîne
ça c'est.
alimentaire. Et par exemple, j'ai découvert que je le savais plus ou moins parce qu'on en parle beaucoup, mais que les champignons, que dans le sol, la vraie vie la plus forte bactérienne est dans le sol. Le poids des vers de terre en France est plus important que le poids des Français. Tous les vers de terre de France. Les
C'est
vers de
énorme
terre,
ça.
oui, c'est formidable. Et les champignons, permettent aux arbres, avec les filaires, de se parler. Et le sol n'est qu'un réseau internet de champignons. Écoute ça, dans une cuillère à café de terre, une cuillère à café de terre que tu prends dans la forêt, il y a près d'un kilomètre de filaments de champignons dans une cuillère à café. Un
Un
kilomètre
kilomètre.
de petits morceaux de fil comme ça. C'est inouï. Donc voilà, c'est passionnant parce qu'on va vers un monde. Les arbres, je les côtoie tous les jours. Mais je ne savais pas qu'il y avait cette vie incroyable dans le sol. Bon, tout ça est une histoire qu'on va raconter dans le film et voilà, ça m'emballe carrément. Mais
Quand sort le film?
il sortira en octobre sur France 2.
En octobre sur France 2. Une autre question, Yann Arthus-Bertrand. Vous parliez du silence tout à l'heure. Je trouve que le silence, apprendre à faire silence, c'est écouter la nature finalement. Parce que la nature nous parle.
Le vrai silence, je ne connais pas moi. Il n'y a jamais de vrai silence. Il y a toujours des bruits d'oiseaux, d'animaux, de goélands. Le vrai silence, on entend à côté les gens qui parlent. Non mais, vous pouvez faire moins de bruit s'il vous plaît à côté? S'il vous plaît? On va couper ça. Merci beaucoup. Non, aujourd'hui, le vrai silence, je ne connais pas. Je pense que ça m'intéresse beaucoup d'ailleurs.
Oui, mais pour écouter la nature, pour savoir l'écouter, il faut faire silence.
Oui, tu sais, tu sors dehors, et tu ouvres grand les yeux, tu arrêtes de parler, tu éteins ton téléphone et tu n'entends le
C'est
silence.
ça, oui. Mais alors, la question était la suivante, dans ce silence, il y a quand même une appétence spirituelle. Finalement, l'homme est un être spirituel, selon vous, vous parliez de
C'est
spiritualité
quoi
tout
la
à l'heure.
définition de la spiritualité pour vous?
La spiritualité, c'est celui qui est relié finalement à un esprit qui est beaucoup plus grand que lui, à l'au-delà.
Ouais, je sais pas.
Pour vous, quelle définition?
C'est la recherche d'un. Être à la recherche d'autre chose du quotidien dans lequel on est enfermé. C'est à la recherche d'une espèce de chose qui nous dépasse un petit peu, quoi, de la recherche. J'ai du mal à l'exprimer d'ailleurs ce que c'est que la spiritualité. Mais en tout cas, je le ressens quand tu fais de la méditation, que tu sens un petit peu,
Oui.
sans savoir vraiment où tu vas, mais tu le cherches, quoi, de l'avoir. Voilà.
Descartes souligne que l'homme veut être comme maître et possesseur de la nature. A-t-il peur de se laisser maîtriser par la nature? Pourquoi veut-il être maître de la
Une
nature?
époque des grands philosophes, Descartes, tout là, est une autre époque qu'aujourd'hui.
Oui.
Je pense qu'aujourd'hui, on a une connaissance du monde autour de soi qui n'a rien à voir avec ça. Il y a une redécouverte de la nature dans les années. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y a un livre qui est sorti sur Humboldt, qui était un grand explorateur des années 18e, 19e. Et en fin de compte, l'homme a redécouvert la nature, on a refait les voyages qui partaient faire le tour du monde. Qui ramenait des dessins d'animaux, des peaux d'animaux. Et je pense que c'était tous ces grands philosophes grecs n'ont pas la connaissance qu'on a aujourd'hui de la nature. Et il n'y avait pas aussi cette notion de cette nature qui était en train de disparaître à cause de nous, quoi, toi. Donc c'est vraiment autre chose.
C'est ça. Yann Arthus-Bertrand, vous êtes donc photographe. Est-ce que vous photographiez la nature? Offrez-vous à toutes les personnes qui vous regardent la réalité de la nature ou la vérité de la nature? Quelle est la différence pour vous entre vérité et réalité?
Je ne sais pas si la photographie est suffisante pour faire cette différence. On est toujours un petit peu la façon dont on la voit, la façon dont la photo a été travaillée. Je pense que cette immersion dans le vivant qu'on peut avoir en se promenant dans la forêt n'a rien à voir avec mes photos, quoi. Je pense que mes photos ne sont qu'une petite partie de ce qu'on peut voir. L'intérêt de la photographie, c'est que quand tu as été comme moi dans 130 pays, tout le monde ne veut pas aller dans 130 pays, donc ça permet
Oui.
de témoigner à ta façon d'un autre monde, quoi, voilà.
C'est ça, mais parce que est-ce que vous n'avez pas parfois peut-être le sentiment d'avoir trahi, de trahir ce qui est devant nous, de le trahir pour de l'interpréter, parce qu'il y a une
Je
interprétation
ne sais
sur la
pas si je le
photo.
trahis. J'ai toujours l'impression que mes photos sont beaucoup moins belles que ce que j'ai vécu. que l'instant que j'ai vu était beaucoup plus fort quand tu vois devant un glacier en Antarctique. C'est tellement magique, ta photo le fait riquiquer à côté.
Oui. C'est vrai que l'interview va bientôt s'achever, mais je voudrais quand même, le grand scientifique que vous connaissez, Claude Bernard, souligne qu'il ne faut pas réfléchir sur les conséquences des dérives de l'homme face à la nature, mais qu'il faut réfléchir sur les causes. À votre avis, quelle est la cause de cette dérive? Pour éviter de continuer à dériver.
Alors, c'est assez simple, hein, comme réponse. On l'a tous la cause. Hein. Je pense qu'il y a des scientifiques ou des chercheurs qui s'appellent comme Jean Covici, par exemple, qui parlent très très bien de ça. C'est très très facile de voir que c'est notre action, c'est notre vie au quotidien qui est en train de détruire la vie sur Terre. On est en train de scier la planche, la branche sur laquelle on est assis. Voilà, cette dérive, c'est une dérive qui est difficile à expliquer en fin de compte, parce que personne n'arrive à comprendre pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de réagir. Tout le monde essaye, quoi. Il y a un livre qui est formidable, c'est le syndrome de l'autruche, là, on voit bien que on est incapable de réagir. Et même les scientifiques les plus pointus, eux-mêmes participent à ça, quoi. On pourrait se dire, d'ailleurs, on devrait peut-être tous, moi je devrais peut-être vivre à la campagne, tu vois, faire pousser mes carottes, ne pas avoir d'iPhone, ne pas avoir de bagnole. Quand je suis comme tout le monde, j'essaye d'être un peu en décalage par rapport à mes convictions, quoi.
Oui. Il y a Arthus Bertrand, à tous les milliers d'étudiants qui vous regardent, quel message d'espérance pouvez-vous aujourd'hui leur
Alors,
donner?
d'abord, je pense que les étudiants, il ne faut pas avoir peur de l'avenir. Il faut se dire qu'aujourd'hui, moi quand j'avais 20 ans, on avait un avenir qui était ouvert. Aujourd'hui, l'avenir, il est quand même un peu plus inquiétant. Mais en fin de compte, un avenir, c'est toi qui vas le fabriquer. Et je pense que le fait de donner du sens à sa vie. Est-ce que le métier que je veux faire est utile au monde? Est-ce que je suis heureux dans ce métier? Est-ce que ça sert à quelque chose? Choisir l'entreprise dans laquelle on va travailler, ça c'est important. Et en même temps, on se dit, il y a tout à inventer, quoi. Aujourd'hui, c'est extraordinaire. On est devant une espèce de précipice, oui. Comment on va construire le pont, quoi? Comment on va le faire? Et c'est vous qui allez le faire, le pont, c'est pas moi. Et je pense qu'il y a un énorme chantier à mettre en route. Et les jeunes, c'est étonnant parce que je me répète, mais cette histoire de pas pleurer dans le noir tout seul, d'aller mettre une lumière. Le jour, j'ai fait une conférence à l'école polytechnique. J'étais surpris de voir à quel point les jeunes étaient engagés. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une conférence. Je fais pas mal de conférences et je parle beaucoup de la viande, de ces choses-là, de l'impact de la viande au quotidien. On mange 3 fois par jour, donc on peut vraiment changer beaucoup de choses à travers notre alimentation. C'est important de manger bio, produits, circuits courts. Ce qui est important, c'est de payer vraiment le vrai prix. Ça coûte un peu plus cher, mais c'est normal. Il faut l'accepter. Et puis, je fais une conférence et je demande devant des gens qui étaient cinquantaine d'années, 40, 50, quels sont ceux qui sont végétariens. Il n'y en a pas un qui lève la main. Et je demande qui veut devenir végétarien. Il y en a un qui lève la main sur 300. Le lendemain, j'avais une école de Louis le Grand qui était venue faire une petite. Qui avait vu Legacy, qui me posait des questions. Je demande qui est végétarien, 30% des bras se lèvent. Qui veut devenir végétarien, 30% des enfants lèvent la main. Je demande quel est l'impact, quel est le carbone dépensé par Français par an. Ils avaient tous le nom, ils avaient tous le chiffre. Ce qui veut dire quelque part que la jeunesse d'aujourd'hui est bien, bien plus concernée, et bien plus active. Que le sont les gens, les adultes aujourd'hui qui travaillent. Et je pense que c'est formidable, mais je pense que ça va changer beaucoup de choses. Et il faut se dire, ben voilà, de toute façon, il va arriver ce qui va arriver, mais qu'est-ce que j'en fais moi? Quelle est ma part là-dedans, quoi? Est-ce que je m'en fiche en me disant, on sait ce qui va se passer, c'est pas grave, on va continuer, lorsque je dis, je vais essayer de changer les choses. Et je pense que nous, notre génération, on a le devoir de vous aider un maximum, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Je dois reconnaître, donc je suis désolé. Donc je demande pardon plus efficace, là, oui. Je le demande avec humilité parce que c'est ma génération qu'on a profité sans aucune culpabilité parce qu'on ne le savait pas. Mais aujourd'hui, il faut qu'on change et on n'arrive pas à changer. Donc, puis je voulais finir par vous dire une chose très simple, c'est que d'être écolo, c'est d'aimer la nature, d'aimer les animaux, d'aimer l'eau pure, d'aimer les arbres, mais c'est aussi d'aimer les gens. On a un peu oublié ça, c'est pour ça que j'ai envie de vous dire à vous tous que je vous aime, tout simplement.
Merci infiniment, Yann Arthus-Bertrand. Merci de ces mots d'espérance que vous venez de leur offrir, d'offrir à tous nos étudiants. Et merci pour votre regard bienveillant et aimant sur la vie et la nature. Et permettez-moi de terminer par une citation de l'Américain, d'un écrivain américain, qui vous caractérise beaucoup. Nous avons deux choix dans la vie. Le premier est d'accepter les choses telles qu'elles sont, et la seconde est de prendre les décisions de les changer. Je crois que vous prenez les décisions de les changer.
Redis-moi encore une fois.
Nous avons deux choix dans la vie. Le premier est d'accepter les choses comme elles sont, et la seconde est de prendre les décisions de les changer. Et je crois que vous prenez les décisions de les changer.
Je pense qu'aujourd'hui, on a tous la mission et le devoir de le faire.
Voilà, le devoir.
C'est pas des mots vains, c'est des mots forts.
Merci Yann Arthus Bertrand, merci beaucoup.
Je vous embrasse.
Et bon courage pour tout ce que vous faites.
Merci beaucoup. À bientôt.